RFI. Grand reportage.
Vous allez tomber sur vos...
On voulait juste être une petite compagnie de théâtre professionnelle. Être assez exigeant avec notre théâtre pour pouvoir aller à la conquête du monde à partir du continent.
Unique, mystérieux et prestigieux, le village Quilly, situé dans le quartier de la Riviera 2 à Abidjan, a fait émerger des grands noms de la danse, de la musique ou du théâtre ouest-africain. À l'origine, l'écrivaine camerounaise Were Were Lee King et une poignée d'artistes utopistes et déterminés qui, dans les années 80, jettent les fondements d'un projet ambitieux, un centre d'excellence artistique et un lieu de vie communautaire. Très vite, le village acquiert ses lettres de noblesse, mais des années plus tard, certains résidents témoignent d'une réalité plus contrastée. Grandeur et misère du village Quilly, c'est un grand reportage de François Humfer Kataji.
Dans la salle de spectacle du village Quilly, dans le quartier de la Riviera 2, une dizaine de jeunes danseurs sont à pied d'œuvre, à 3 jours d'une représentation importante. L'événement viendra marquer un passage de relais officiel. Après 36 ans sous la férule de l'écrivaine et poétesse camerounaise Were Were Lee King, le village Quilly change de direction artistique. Jenny Mézil, chorégraphe franco-haïtienne, sera chargée de redonner au village d'artistes ses lettres de noblesse. Elle adresse un discours à ses jeunes danseurs, qui seront bientôt les nouveaux résidents de ce village mythique.
Nous, on ne veut pas faire, on veut faire excellemment. Il faut que ça soit, que ça dépasse le faire, que ça soit excellent. Tous ceux qui ont été formés ici aussi, c'est l'excellence. Il y a des noms, Niababakom, Bomou Mamadou, Bomou Bassa, Kadi sa sœur, qui est maintenant au Ballet National, vous le connaissez. Et comment s'appelle le rappeur là déjà, Didi B. Ça me donne beaucoup d'espoir, voir cette répétition là, ici, pour la première fois au village qui...
Au début des années 90, ils étaient plus d'une centaine à partager ce lieu de vie. En tout, 500 artistes ont été formés dans ce centre. Musiciens, arrangeurs, chefs d'orchestre, danseurs, marionnettistes, couturiers, comédiens, chanteurs, sculpteurs. Une pépinière des arts en plein cœur d'Abidjan, à la fois centre de formation et quartier général de la compagnie Kimbok. Were Were Lee King, surnommée la Reine Mère, a été la chef de ce village singulier pendant 36 ans. Elle esquisse de légers sourires et scrute attentivement la relève. Les danseurs, tous âgés de moins de 25 ans, se sont assis en bord de scène, la peau perlée de sueur après 2 heures de répétition. L'artiste pluridisciplinaire a vu défiler sur ce même plateau des dizaines de jeunes danseurs et comédiens en devenir qu'elle a elle-même recrutés puis formés. En guise de leçon inaugurale, elle se fend également d'un petit discours.
Vous savez que le Quilly est panafricain. Et quand on dit panafricain, ça veut dire... pas seulement ce qui est sur le continent, mais aussi toutes les diasporas.
Comme toujours, moi, elle porte une élégante robe africaine, une coiffe ajustée et une canne en bois sculptée qu'elle ne quitte pas. Pour retracer l'histoire du Quilly, nous nous rendons dans la bibliothèque du village où elle prend place sur un trône en acajou. Les pièces sont peuplées de masques africains, de peintures signées de son nom, des recueils de poèmes sont empilés sur les étagères. La reine-mère, 71 ans, a écrit une trentaine d'ouvrages littéraires. Son œuvre a fait l'objet de thèses de doctorat et 4 de ses romans ont été honorés par des prix de littérature. Son œuvre est pléthorique et parmi ses créations, Le village Quilly, une aventure humaine sans pareil. Tout commence en 1985. Lee King est à la tête de la troupe de théâtre de l'université de Cocody, mais souhaite s'ancrer dans un lieu pour développer un nouveau genre dramatique, le théâtre rituel.
On voulait juste être une petite compagnie de théâtre professionnelle, être assez exigeant avec notre théâtre pour pouvoir aller à la conquête du monde à partir du continent. Nous avions des ambitions, nous avions des rêves. Nous avons fondé notre chose sur le panafricanisme. Je suis née dans les luttes des indépendances au Cameroun. Donc nous avons toujours voulu partager le rêve d'une Afrique unie et grande.
En compagnie de sa sœur Nserel Njok, du comédien Bomou Mamadou, d'Orso Brou Armand, Lee King loue une petite villa au milieu des manguiers et des avocatiers pour en faire un lieu de résidence artistique.
J'ai décidé de faire quelque chose de plus professionnel, de plus exigeant. J'avais abouti à la conclusion que pour atteindre cet objectif-là, il y avait un minimum qu'il fallait avoir. Le minimum, c'était un espace de travail où pouvoir travailler tout le temps qu'on veut pour atteindre ses objectifs. Et le minimum, c'était d'avoir des gens disponibles pour ça et pouvoir leur permettre d'en vivre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander aux gens de venir s'entraîner 8 heures à 14 heures par jour et après leur demander d'aller vendre les beignets au bord de la route pour pouvoir survivre. Ce n'est pas logique, ce n'est pas normal. On s'est dit qu'il fallait un endroit où on pouvait tous vivre là, nous nourrir nous-mêmes, subvenir à nos propres besoins et surtout pouvoir travailler sans que quelqu'un se plaigne.
À l'époque, il n'y a pas de véritable politique culturelle en Côte d'Ivoire. Ni le président Houphouët Boigny, au pouvoir depuis l'indépendance en 1960, ni son ministère de la Culture ne se soucient véritablement du patrimoine culturel ivoirien. Le budget du ministère est d'à peine 1 milliard de francs CFA. 1,5 million d'euros, dont 85% est affecté au paiement des fonctionnaires. Wereweré Li King sait qu'elle ne peut pas compter sur un soutien de l'État. Tout devra se penser et se créer sur fonds propres, selon la philosophie du Kiimbok, l'ultime connaissance en langue bassa.
Notre Dieu à nous n'a pas besoin des armées. Notre Dieu à nous aime tout ce qu'il a créé. C'est un Dieu de paix, un Dieu de liberté, un Dieu de créativité. C'est un Dieu de paix.
Le Ki enseigne aussi que la création n'est pas seulement celle des œuvres d'art, mais d'abord celle de meilleures conditions de vie pour soi-même et pour son entourage, celle de solutions à ses propres problèmes. Et donc, au fur et à mesure, on appliquait directement selon nos besoins et on trouvait des solutions.
Le village sera donc financé par l'organisation régulière de dîners-spectacles à destination de touristes curieux, d'Abidjanais argentés ou d'expatriés. Très vite, la reine-mère décide de recruter et de former des artistes complets, capables de danser, de chanter, mais aussi de connaître le solfège, de jouer un instrument ou de concevoir des costumes. En quelques années, les effectifs passent de 3 à une centaine d'artistes résidents. Ce sont souvent des jeunes, voire de très jeunes recrues, issus de milieux défavorisés, qui entrent au Ki.
Déjà, ma toute première impression, j'étais heureuse d'être là.
Bakome Nyamba, aujourd'hui chorégraphe et comédienne reconnue, débarque au village à l'âge de 17 ans. Déscolarisée, elle rêvait de faire de la danse son métier. Avant son admission au Ki'i, elle était employée de maison. Son arrivée au village en 91 bouleverse sa vie.
Vu que tout avait fonctionné et que maintenant je devais démarrer une carrière professionnelle auprès d'une personne de renom comme Wereweré Li King, pour moi c'était vraiment énorme. Et donc je me retrouve là, je suis contente. Et le lendemain, on me réveille à 4h du matin. J'ai dit bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai encore le sommeil dans les yeux. J'ai dit mais... C'est pourquoi on me dit non, c'est pour aller courir. Courir à 4 heures. Et donc, je me retrouve à faire des distances incroyables, des parcours vraiment de combattants, de militaires. Je me réveille à 4 heures du matin, 4 heures et demie du matin, et je me rendors autour de 23 heures. 23 heures le soir, et le lendemain, je dois me réveiller encore à 4 heures. Mais là, j'avoue que je ne l'avais pas prévu du tout. Moi, je venais pour danser, pas pour une formation commando, une formation militaire. Et donc, du coup, nous étions, je crois, au nombre de 7. Et il y a 5, je crois, qui ont pris la fuite. Ils ont fui. On ne s'est même pas rendu compte à quel moment ils sont partis. Moi également, j'étais en train de de prévoir mon départ. Et puis, bon, c'est comme ça que j'ai été rattrapée dans les buissons un soir. Et donc, on m'a ramenée chez ORA. Et donc, elle m'a dit non, pas besoin de fuir. En fait, c'est une formation qu'elle donne, vu que c'est quelqu'un, franchement, de très pointilleux, de très rigoureux. Et pour elle, l'artiste doit être polyvalent. Ça demande vraiment de la discipline. Et ça demande vraiment une disposition physique. Et donc, c'est cette disposition physique qu'elle essayait de nous transmettre. Et franchement, j'avoue qu'elle a vraiment réussi.
8 à 14 heures de travail par jour, Wereweré Li King justifie ce rythme effréné par la nécessité de rattraper le retard et d'accompagner les jeunes apprentis vers un niveau professionnel.
Je suis partie de plusieurs constats. Je trouve que nous, on commence trop tard. Vous savez, vous en Occident, les enfants sont au piano à 3 ans ou à la guitare ou tout ça, ils commencent déjà. Quand ils arrivent à 18 ans, ils ont déjà plus d'une dizaine d'années d'apprentissage. Donc il faut travailler doublement, On ne peut pas se permettre de se contenter de 3 à 4 heures par jour. Il faut un minimum de 8 heures de travail par jour. Quand nous étions au bord de création, on pouvait arriver jusqu'à 20 heures de travail dans une journée.
D'une simple villa, le Quilly devient un village de plus en plus étendu, des jardins, des espaces de représentation, de nouvelles maisons, puis plus tard, un vrai plateau de répétition tout équipé grâce aux subventions des ambassades du Canada et de France. Certaines productions musicales maison deviennent des tubes, comme Nangoche. La vie du village se structure et le Quilly devient une institution mystérieuse connue de tout Abidjan.
C'était une magie au niveau de l'Afrique et au niveau de la Côte d'Ivoire. C'était vraiment quelque chose de mystérieux en fait, le village Quilly. C'était mystérieux parce que tous ceux qui entraient au village Quilly avaient une peur et ils avaient l'impression que, au-delà de l'aspect physique, ils sentaient une aura qui se dégageait là. Ils sentaient une force qui se dégageait et donc. Cette force venait du fait que, franchement, elle a réussi à s'imposer de façon incroyable et à imposer sa force qui était la méditation transcendantale et une énergie. Moi-même, quand j'y pense, parfois, je dis, mais attends, on avait comme l'impression d'être hypnotisé.
Ces rappeurs rigolos fuient quand j'apparais, le week-end disparaît quand lundi apparaît. Si t'écoutes pas moi j'appelle t'as le palu. C'est bâtard qu'on est sous mes sons, je parie, mon équipe est carrée. J'prends le drapeau de Côte d'Ivoire et demain je descends sur Paris. Ouais viens au Paris, petit nous si bois Bakari. Pour demain vivre comme un Qatari.
Le célèbre rappeur ivoirien Didibi Majavelli, issu du groupe Kif No Beat, a grandi dans ce village et en garde de bons souvenirs. Son père, le musicien Bomou Bassa Aboubakar, et sa mère, la chorégraphe Peoula Zeroué, étaient des membres incontournables du collectif.
C'était la joie, c'était des spectacles qu'on regardait, on participait même aux spectacles aussi en tant qu'enfant. En même temps, c'était l'apprentissage, pas par les actes, mais pas juste par le regard. On apprenait, on regardait, on était émerveillés par tout ce qui se passait, tout ce que nos parents faisaient là-bas. J'ai été entraîné dans ça, même dans la musique que je faisais, même si c'était du hip-hop. Mais je veux dire quand même que j'ai copié le fait de voir les gens travailler au village qui, leur manière de travailler, d'être perfectionniste, d'être assidu, essayer de créer, se tordre le cerveau, ne pas être paresseux, ne pas faire des choses faciles.
L'émulation est d'autant plus importante que, dans les années 80 et 90, trois compagnies de danse ivoirienne se livrent une compétition acharnée pour voir leurs créations retenues dans les festivals internationaux. La compagnie Kimbok va définitivement s'inscrire dans le paysage artistique avec la création Singemura en 1990. Puis un Touareg s'est marié à une pygmée en 1992. Le Quilly enchaîne les tournées au Japon, aux États-Unis, au Mexique, en France, au Festival d'Avignon, aux Francophonies de Limoges. Jusqu'à 45 performeurs composent la troupe qui tourne de salle de spectacle en festival, parfois pendant plusieurs mois. Mais que s'est-il passé alors pour que le Quilly sombre peu à peu dans l'oubli au cours des années 2000? Comment et pourquoi les artistes ont déserté le village les uns après les autres? La reine-mère, Were Were Li King, évoque le poids des crises politiques ivoiriennes sur le fonctionnement du village et la vie de ses membres. Elle fustige aussi le nombre croissant d'artistes profitant des tournées pour fuir et s'installer clandestinement en Europe ou en Amérique du Nord à la fin des années 90. Bakome Nyomba, elle, constate pudiquement que la relève n'a pas été préparée.
Moi, ça me donne un enseignement incroyable pour dire qu'une jeunesse, elle se prépare, une relève, elle se prépare, parce que le temps ne nous appartient pas. Et donc sur cet aspect, Ware seul pourrait véritablement répondre à cette question et dire mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tout s'écroule comme ça du jour au lendemain autour d'elle? Qu'est-ce qui s'est véritablement passé? Et ça c'est... je ne peux répondre à cette question, malheureusement.
Selon cinq témoignages, l'écroulement du Quilly, cette utopie du vivre ensemble et de l'excellence artistique, s'explique aussi au regard de la personnalité et de la façon de diriger de Were Were Li King. L'excellence, mais à quel prix? Comment placer le curseur de l'acceptable et de l'inacceptable lorsqu'il s'agit de s'engager dans un métier passion? Pour beaucoup, les divergences avec la direction du QI étaient devenues trop douloureuses. Ils sont peu à accepter de s'exprimer sur le sujet. À tout étaré, elle a souhaité raconter sa version de l'histoire pour que l'Afrique avance, dit-elle, déterminée. Elle évoque les facettes les plus sombres de l'histoire de ce village.
On raconte pas pour s'attaquer à elle, on raconte pour aussi pour qu'on puisse justement éviter de faire ce genre de, quelque part, ce genre de bêtises.
Marionnettiste, aujourd'hui résidente à Paris, elle revient longuement sur ses années QI entre 86 et 91. Elle avait 19 ans lorsqu'elle entre dans la communauté. À tout étarré, dénonce l'emprise de la direction, le manque de liberté, la difficulté d'obtenir des autorisations pour quitter le village, les problèmes récurrents d'argent au sein de la compagnie malgré les horaires de travail, et le fossé entre le discours et les actes.
On voit la personne sur scène, on déclame, on parle de gabégie à l'africaine et machin. Et puis quand on descend de là, ben, le comportement, il est autre. C'est-à-dire, on te tient, on t'épie. Il y a l'argent qui rentre, ben, on ne donne pas ce qu'il faut. Il y a la maltraitance au sein du groupe. On parle de féminisme. Et puis, on laisse les acteurs, donc garçons, c'est-à-dire battre les filles. Ben, elles lèvent pas le petit doigt. Les filles qui ont des règles douloureuses, ben, tu travailles de 4 heures du matin, tu es au soleil, parce qu'on travaillait à cette époque quand même sous le soleil. Moi, souvent, je me révoltais en arrêtant de travailler. J'ai dit, je ne travaille pas. Donc, j'étais carrément punie. Donc, c'est terrible. C'est terrible. Travailler dur, je veux bien. C'est tous les jours, les gens se lèvent, ils travaillent dur. Mais travailler dur, il y a des règles. On part d'une certaine heure, on arrête à une autre heure. Et travailler dur, tu ne peux pas travailler dur, te lever à 4 heures du matin. Tu vois ton enfant qui est assis là par terre, qui a faim. Et non, on ne te laisse pas partir. Quand tu pars, on te dit, bon, tu as moins ceci, moins cela. À la fin du mois, on te récupère des sous. Mais c'est quoi la vision?
Loin de la vision idyllique de ce village, Atou Etare se dit aujourd'hui choquée par son expérience au sein du QI, dont elle dénonce les dérives et les abus. Elle raconte également une séance de punition et d'humiliation collective qu'elle dit avoir subie en raison d'une liaison qu'elle entretenait avec un membre de la communauté.
Oui, j'ai subi des violences personnellement. J'ai aimé un garçon là-bas qui m'a aimé aussi. On nous a mis au milieu de la salle pour nous juger. On nous tapait. Jusqu'à 90 coups de chicotte. Sa cérémonie, je ne saurais vous expliquer ce que c'était. C'est elle seule qui savait quelle cérémonie elle a fait. Aujourd'hui, quand je regarde, c'était du n'importe quoi.
Le rappeur Didi B se souvient également des conflits récurrents entre les membres du village et la direction.
Mes parents n'ont pas été respectés à leur juste valeur. Parce que j'étais petit et j'ai assisté au fait qu'on les vire du village qui... Ils n'arrivaient plus à subvenir à leurs besoins. La direction du village qui n'a pas respecté les piliers du village qui... Du coup, c'est plus pareil comme avant, mais voilà, c'est la vie.
Were Were Liking rejette toute accusation de malversation et explique que le village avait besoin de frais de fonctionnement.
À ma connaissance, j'ai toujours payé à chacun ce à quoi il avait droit. Donc, au village Kiyi, on avait des règles. Les aventures humaines sont toutes les mêmes. Il y a des difficultés, il y a des opportunités. Et je dis toujours que ce n'est pas ce qui nous arrive qui est le plus important, mais c'est notre réaction face à ce qui nous arrive. Nous avons changé d'orientation au fur et à mesure. C'est pour ça que le village Kiyi tient toujours. On a beau dire, la plupart des compagnies qui était là à l'époque, il n'y a pratiquement aucune qui tient encore sur la place, à part le QI.
La reine-mère souhaite désormais créer un nouveau village d'artistes, isolé et en brousse cette fois. Comme à l'Opéra Garnier, les gens viendront du monde entier en Afrique pour regarder les spectacles, dit-elle, les yeux pétillants.
Grandeur et misère du village QI, un grand reportage de François-Hume Ferkataji, réalisation Ludivine Amadou.